André Markovitch, bonjour.
Bonjour.
J'ai appris que pour vous, la traduction de Maître Marguerite est une affaire de vie, de toute votre vie.
Oui.
C'était une espèce d'aboutissement.
Mais c'est... Oui, d'aboutissement, c'est-à-dire, en quelque sorte, comme la fin d'un cycle de vie qui a commencé... Ben moi, je traduis depuis l'âge de 16 ans. Et imaginez-vous que je viens d'avoir 60. Je n'y crois pas, mais c'est vrai.
D'après les...
Non, d'après les documents...
Des conventions sanitaires, vous êtes encore jeune.
Alors,
vous n'êtes pas
j'ai, raté une chose, c'est-à-dire que je pouvais racheter soit une carte liberté pour voyager dans... soit une carte senior.
Mon Dieu.
Et je n'ai pas pensé à acheter la carte senior, mais j'ai
acheté... Parce que vous êtes un homme humble.
Voilà, c'est ça, on peut dire ça. Non, sérieusement. En fait, j'ai toujours vécu avec l'idée que ce serait extraordinaire de traduire le Maître Marguerite. Parce que d'abord, c'était le livre de notre famille. Je veux dire que c'est... Je l'ai dit, mais c'est très important de le redire pour moi. C'était le livre de mon père. Et justement, ben, en fait, il est décédé le 1er octobre 2005. Et le jour des obsèques, et c'est pour ça que c'est bien d'en parler là, le jour des obsèques, ma mère a tenu à lire un chapitre du Maître Marguerite. Et donc, c'est l'histoire familiale, bon, qui est importante, mais qui est privée, je la partage, mais il y a autre chose. Il y a le fait qu'en traduisant le Maître Marguerite, je faisais comme une espèce de palimpseste de la littérature russe et en fait de mon travail. Le travail sur Dostoïevski, ça va de soi. Parce qu'il est inimaginable. On ne peut pas imaginer Bulgakov sans Dostoïevski et les conversations du diable sans les conversations entre Ivan Karamazov et le diable. C'est évident. Mais aussi Gogol. Et aussi naturellement Pouchkine. Et donc, ça, peut-être on en reparlera encore, mais c'était comme pour moi une espèce de nécessité absolue. Vous savez, j'ai cette chance, comme traducteur, de ne pas prendre de commandes. De toujours avoir pu, donc je touche le bois, et Dieu soit loué, à la librairie du Globe, il y a beaucoup de bois. Je touche le bois, j'ai toujours pu faire ce que je voulais. C'est toujours moi qui ai dit, voilà, je fais ça. Et même quand Actes Sud me fait des contrats, vous savez, il traduit Dostoïevski à l'initiative d'Actes Sud. Mais Hubert Nissen savait que c'était pas tout à fait vrai. C'est moi qui ai proposé. Et donc, je me suis, dès très tôt, tracé un chemin. Et ce chemin s'achevait avec... le Maître Marguerite. Et arrivé à un moment où finalement, d'une façon ou d'une autre, on a pu traduire le Maître Marguerite, c'est très très important pour moi. La question est que là, je suis seul, on l'a traduit à deux, Françoise Morvan et moi. Et moi, au début, je l'avais traduit tout seul. J'avais commencé à le traduire tout seul. Et vous savez quoi? J'ai pas pu. Pendant un an, j'ai essayé. Je traduisais tous les jours. Et je sentais que c'était pas ça. Qu'il y avait quelque chose qui m'échappait. Qu'il y avait quelque chose qui... Comme si je restais comme à la surface des mots. Et Françoise, qui a relu toutes mes traductions, et avec laquelle on traduit là à deux, en signant à deux Tchekhov, et avec laquelle on a traduit aussi comment la fille du capitaine qui vient de paraître chez Babel. Eh bien, Françoise me disait, mais vous, c'est pas ça, c'est pas ça. Et ma maman me disait la même chose. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et là, j'ai dit à Jérôme Derle, l'éditeur d'Un Culte, que j'y arrivais pas. Et il m'a dit, écoute, c'est pas grave, on attend. Oublie tout et recommence l'année prochaine, reviens l'année prochaine. Et comme la blague, jury enthousiasmé, désire me revoir l'année prochaine. Et là, on a commencé à deux. Et en fait, Françoise me dit, je sais pas si c'est vrai, mais peut-être que c'est vrai, que j'avais peur du diable. Qu'il y avait quelque chose qui était trop dur, trop méchant. Comme j'ai pas réussi à traduire Les âmes mortes. J'avais commencé. Et ça m'a fait mes peurs. Mais vraiment peur. Tu vois, quand tu sens ça, quand... Oh mon Dieu! Et d'ailleurs, c'était bien, parce que vous vous souvenez, Gogol, il est mort de ça.
Parce qu'il il s'est réveillé dans son cercueil, il était vivant.
Mais oui, et il a eu peur d'avoir créé le diable. Hein, c'est une chose incroyable, il est devenu fou à cause de ça. Bon, bref. Et avec Françoise, du coup, moi je faisais une première version. Françoise essayait de comprendre qu'est-ce que je voulais dire. Mm-hmm. Comprenait. Mettait la précision dans les détails du vocabulaire et me posait toutes sortes de questions. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé, en essayant de respecter les styles. Parce que quand on le lit en russe, ce qui est bouleversant dans le Maître et Marguerite, c'est qu'il n'y a pas une langue.
Il y en a une.
Il y en a des dizaines. Il y a des styles différents, des rythmes différents. Il y a la langue, en gros. Il y a trois mondes linguistiques. Le premier, c'est le monde soviétique, le monde des années 20, satirique, qui est un peu genre Zoschenko. Bon. Le deuxième, c'est le monde soi-disant biblique. Mais c'est Yeshua à Yerushalayim, c'est pas Jésus à Jérusalem. Et ça, c'est encore autre chose.
C'est pas des évangiles.
Non, non, non. Et puis, il y a le monde de l'amour, il y a... Voilà, Marguerite. Et ça, c'était essentiel d'essayer de respecter, d'essayer d'entendre en français les différentes langues. Et tout notre travail, je pense, il a été... conçu sur ça.
Il y a des ecclésiastiques qui disent que le Maître et Marguerite, c'est une espèce de slang soviétique, enfin patois, je ne sais pas comment dire.
D'argot
soviétique, ouais. Pour traduire la Bible aux soviétiques athées, qui somme toute sont des analphabètes, pour leur apprendre la liberté. Donc est-ce que c'est cet argot que vous peinez de traduire?
Non, je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit comme ça. Je pense que réellement, la langue de Pilate et la langue des chapitres, comment dire, palestiniens, c'est une langue de. Lyrique, mais je vais plutôt répondre d'une autre façon. Ce qui me frappe aussi, c'est bien sûr, il y a ces trois langues. Mais en fait, ces trois langues sont liées par des répétitions. Des répétitions de mots qui se retrouvent, de motifs, d'images, qui se retrouvent dans les trois niveaux du roman. À Moscou, à Yerushalayim et dans le... Enfin, entre Marguerite et le maître. Et par exemple, l'obsession qu'a Bulgakov avec le mot pakoï. Pakoï, ça veut dire le repos. Et les dérivés de ces mots-là. Au point qu'il y a des choses absolument intraduisibles. C'est-à-dire que, par exemple, l'immeuble dans lequel se passe la chose, et qui, d'une façon ou d'une autre, était celui de Bulgakov lui-même et celui de Mandelstam, puisqu'ils étaient voisins à ce moment-là. C'est un immeuble en pakoï, en paix russe. Et les lettres en russe, traditionnellement, sont désignées par un mot qui commence par cette lettre. Et donc le mot pakoï, ça veut dire le repos, c'est en paix. Mais comment veux-tu traduire ça? C'est une беспокойный дом, который покоем построен, qui est construite en pakoï, une maison. Et comment dire? Sans repos, intranquille, paisible, comment traduire ça? Donc voilà, ça c'était un sujet important. Et du coup, le mot pakoï, je reviens dessus. C'est ce mot-là qui m'a amené à tout à coup à comprendre, parce que j'avais pas fait attention avant, que tout est en fait, que tout le roman est une expansion de 8 vers de Pouchkine. Para, mon drug, para, pakoe, serce, prosit. Partons, amis, partons, que le repos nous vienne. Le jour succède au jour, et tous les jours nous prennent un peu de notre vie. Nous méditons encore de vivre, et nous serons, demain peut-être, morts. Qui parle d'être heureux, non, en repos et libre. Depuis longtemps, longtemps, un rêve brûle et vibre. Esclave exténué, j'ai projeté de fuir au pays des travaux et des nobles plaisirs. В обитель дальнюю трудов и чистых нег. Et tout à coup, ce mot pakoï, repos, ou paix, ou je ne sais pas comment le traduire, m'a amené à un autre mot qui est répété d'une façon incroyable. C'est le mot dôme. Dôme, c'est la maison. Parce que, et là, ça nous a amené à autre chose. Le roman commence par une conversation entre deux écrivains soviétiques, comme on sait, Berlioz et Bezdomny. Et l'habitude de la traduction française est de ne pas faire attention à la traduction des noms. Et tout le monde traduit Bezdomny.
Mais
Bezdomny, ça veut dire c'est celui qui n'a pas de maison. Bien sûr. Or, ce mot, il est essentiel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son nom de famille, c'est son surnom. C'est le surnom littéraire, le pseudonyme littéraire qu'il s'est choisi. Eh bien, si tu ne traduis pas ça, ce que tu ne traduis pas, ce n'est pas le nom, c'est le thème essentiel. Agdir dom. Où est la maison? Parce que le monde soviétique des années 20-30 et bien plus tard, c'est le monde où personne n'a de maison. Mais tout le monde a des kommunalni kvartir, des appartements communautaires. C'est-à-dire où tu n'as pas de vie privée. Or, le sujet essentiel du roman, c'est la reprise de ce que disait Pouchkine, entre l'opposition de deux notions fondamentales qui sont le dom, la maison, le foyer, la vie privée, et historia, et le tsar, et le shtokhochev, c'est-à-dire Pétersbourg, que ce soit Staline, le tsar, ou pas, c'est pareil, l'histoire. Et le livre de Bulgakov, c'est la fuite vers une maison éternelle, qui est finalement fournie par celui qui a lu le roman à la toute fin, et qui dit qu'il a trouvé inachevé, mais on va l'achever. Et du coup, quand j'ai compris ça, ça a changé toute ma perception du roman. Comme, comme palimpseste, non seulement de toute la littérature russe, mais de tout le débat culturel de la Russie, depuis Pouchkine. Comment vivre sans vie privée? Comment exister sans existence individuelle? Comment l'opposition fondamentale entre le poète et l'histoire? Le poète et l'homme de pouvoir, qu'il soit tyran ou pas, mais naturellement, tous les hommes de pouvoir sont des tyrans. Enfin, en Russie, c'est clair.
Vous avez dit que ce roman, pour vous, c'est le roman russe. Oui. C'est le livre le plus important.
Oui.
Il y a quelque chose qui dessert ce livre, c'est que c'est un livre peut-être le plus populaire et adoré par des gens un peu infréquentables, au fait par tout le monde. Et j'ai deux questions musicales à vous poser.
Oui.
Il y a une culture très populaire qui est la culture de rock.
Oui.
Donc ma première question, est-ce qu'on peut comparer ce livre avec le rock, qui est une musique sociale, aimée par beaucoup et très engagée. Une deuxième question musicale, quand il y a une partition, c'est un texte, c'est un texte musical et après on interprète.
Oui.
Et chaque musicien interprète à sa façon.
Oui.
Bergman dans un film la sonate d'automne a démontré que interprété par deux personnes différentes, le prélude de numéro 2 de Chopin peut devenir la chose et son contraire.
Bien sûr.
Quand vous faites une nouvelle traduction, est-ce que vous faites le contraire de la précédente? Est-ce que vous êtes un musicien avec la partition? Et cette partition, à quel point elle est proche de l'original?
Alors, sur la première question, je ne peux pas vous répondre parce que je ne connais rien au rock, mais je sais que y a une chanson des Rolling Stones qui vient de
oui, bien sûr,
bien sûr.
Jagger, oui.
Voilà. Après, tout le monde lit Le Maître et Marguerite
à sa manière.
Oui, non, mais non seulement à sa manière, mais tout le monde. Et donc, Le Maître et Marguerite n'est pas responsable de ses lecteurs. Il y a aussi et je pense d'ailleurs que c'était très intéressant parce qu'il y a une espèce d'unanimité aujourd'hui autour du Maître et Marguerite qui est une unanimité qui me rappelle un peu, d'une façon toute différente, celle autour de Pouchkine. Vous pouvez trouver des textes sur Pouchkine de tous les écrivains russes sans exception, sauf un, Tchekhov. Et ça ne veut pas dire qu'il n'en parle pas, mais il n'y a pas de texte. Mais voilà, donc ça veut dire que voilà, c'est le lieu commun, en quelque sorte. Bon, ça, c'est une chose. La deuxième chose, une traduction, c'est une interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux lire le texte original, si tu veux lire Le Maître et Marguerite, tu ne peux pas lire Le Maître et Marguerite. Tu liras Master Margarita. Et tu le liras en russe. Et là, bon an, mal an, ça dépend des éditions, parce qu'il y a des variantes, en particulier sur Le Maître et Marguerite. Il y a des variantes terribles, mais ça, bon, c'est un autre sujet. Quoique, mais c'est un autre sujet. Le texte, il est là. De même, si tu écoutes une musique, si tu as l'oreille absolue, tu lis la partition. Et tu sais ce que c'est. Mais si tu n'as pas l'oreille absolue, tu dois passer par un traducteur, un interprète. Qu'est-ce qu'on peut demander d'un interprète? Non pas qu'il se pose contre ou pour telle ou telle interprétation, mais qu'il soit capable de permettre au lecteur qui lira son texte de faire plus ou moins le chemin que lui a fait à partir du texte original. C'est-à-dire qu'il construise une œuvre. Qu'il construise une œuvre. Qu'est-ce que veut dire construire une œuvre? Que son interprétation soit structurée, pensée. Et donc, il ne s'agit pas du tout de traduire phrase à phrase, etc. Il s'agit évidemment de traduire phrase à phrase, mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit d'avoir une idée de l'ensemble et de permettre au lecteur de se repérer phrase à phrase à l'intérieur de cet ensemble, de même que l'auteur écrit phrase à phrase et passe des années sur une phrase, mais il le fait parce qu'il a l'idée de l'ensemble. Et donc, ça implique qu'il n'existe pas une traduction d'un texte. Par nature, un texte appelle plein de traductions. Alors après, c'est une autre question, c'est les droits, etc. Et, ça, bon, voilà. Et néanmoins, c'est fondamental. Donc, par rapport au... Il existe deux traductions du Maître et Marguerite. La première, celle qui a fait connaître en France le Maître et Marguerite, c'est celle de Claude Lény, qui date des années, de la fin des années, du début des années 70, quelque chose comme ça. Objectivement parlant, quand moi je la lis, ça ne correspond pas au texte russe, ni pour le style, ni pour le vocabulaire, etc. Et néanmoins, et c'est fondamental, c'est cette traduction-là qui a fait la fortune de Bulgakov en France, c'est-à-dire qui a montré au public français, et je connais des gens qui lisent, qui relisent cette traduction chaque année, qui a montré qu'il existe une œuvre qui s'appelle Le Maître et Marguerite. Et donc c'est une traduction remarquable, même si moi je pense que c'est pas ça du tout. Mais ça n'a pas, c'est pas grave. C'est la même chose pour les anciennes traductions de Dostoïevski. Quand je lis les traductions qui ont précédé mon travail, je pense que c'est pas ça. Et j'ai tort de penser que c'est pas ça, parce que Dostoïevski est l'écrivain qu'il est en France. Bon. La deuxième traduction de Françoise Flamand, qui est d'abord parue à la Pléiade et qui est reprise en folio il y a pas longtemps, est une traduction absolument remarquable. Françoise Flamand était une personne, je ne l'ai pas connue, mais c'est une grande, grande slaviste, une grande spécialiste de la littérature russe, une grande spécialiste de Tourguenieff. En particulier, c'est elle qui est responsable à la Pléiade de Tourguenieff. Et qui a passé des années à ce travail-là. Là où notre interprétation de Bulgakov diffère, c'est d'abord sur Pouchkine. Je veux dire que Françoise Flamand n'a pas fait attention à ça. Et d'autre part, sur le fait que pour nous, Françoise et moi, nous venons en gros du théâtre. Enfin, nous venons du théâtre, non, mais on travaille beaucoup au théâtre. Et donc, or Bulgakov est un auteur de théâtre, pas essentiellement, mais fondamentalement un auteur de théâtre. Et il était essentiel pour nous qu'on entende à chaque fois la langue, je ne dis pas parler, mais orale. Ce qui ne veut pas du tout dire parler. La langue parlée, ça ne signifie rien. L'oralité, c'est-à-dire la voix, le rythme de la parole lancée. Et donc, notre traduction est du coup très différente, enfin, j'espère, à cause de ça. Parce que Françoise Flamand, je pense, a fait un travail de traduction savante. Les notes de la Pléiade sont des notes remarquables. Remarquables. Voilà. Mais bon, on est un peu à côté de ça, enfin en dehors de ça. C'est ça qui compte.
Il y a dans le monde des traducteurs, il y a beaucoup de gens qui disent que quand on lit les traductions d'André Markovitch, c'est lui qu'on lit. C'est une charge lourde à porter
Oui, c'est très lourd à porter parce que. Comment vous dire, d'abord, ça me vaut beaucoup d'amour de la part de mes collègues.
Oui, oui. C'est ça le fond de ma question. Oui.
Et moi, je suis, comme qui dirait, animé de sentiments chrétiens, même que je suis un athée convaincu, et donc j'aime tout le monde, ce en quoi j'ai tort. Mais sérieusement, il se trouve que, comment vous dire, comment répondre à une question pareille? Quand j'ai commencé Dostoïevski, Ça a été la première, c'était la première entreprise de, éditoriale construite non pas sur un auteur, mais sur un auteur et son traducteur. Parce que Hubert Nissen n'avait pas besoin de faire connaître Dostoïevski. On le connaissait. Et c'était la première fois qu'on a mis en avant le phénomène de la traduction. J'ai été 100% d'accord avec cette façon de voir les choses. J'en ai été aussi la victime, parce que il se trouve que c'était moi. Mais voilà, il se trouve que c'était comme ça. Et j'ai voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je travaille depuis 45 ans. Je travaille. Et je travaille sur la prose, sur le théâtre, sur la poésie. Et j'écris moi-même. Enfin, comme si traduire, c'était pas écrire, évidemment que si, mais j'écris aussi des textes non traduits, en quelque sorte. Et donc, voilà. Et finalement, ce qu'on pense de moi, comment dire, j'ai choisi un certain nombre de personnes dont, pour moi, l'opinion est essentielle. Mmh. Il n'y en a pas beaucoup. Mais si ces personnes sont satisfaites de mon travail, alors rien d'autre ne peut me toucher.
Il y a une règle dans votre profession. Il paraît que les traductions vieillissent tous les 15 ans. J'ai fait une expérience pendant le confinement. J'ai relu Proust en russe et en français. Et bien sûr, la vieille traduction en russe. Et il y avait parfois des questions, parfois je ne comprenais pas. Et du coup, j'ai fait la lecture en parallèle. Et par exemple, j'ai découvert qu'il y a tout un vocabulaire qui était encore entre les mains de vieux traducteurs. Et c'est des mots qui sont disparus dans l'Union soviétique et maintenant dans la Nouvelle-Russie.
Bien sûr.
Par exemple, je ne sais plus, qu'est-ce que je peux donner comme exemple. Par exemple, il dit « le porteur a apporté le petit mot oui. Pour la maman oui, qui oui, était oui. à l'opéra et le traducteur a traduit avec « Kapeldiener ». Et je suppose que là, on prépare la nouvelle traduction. Je suppose que ces mots usués vont disparaître dans la nouvelle traduction. Est-ce que c'est pas desservir que de... est-ce qu'il n'y a pas un risque que les nouvelles traductions vont faire disparaître tout un vocabulaire qui est propre à l'époque ?
Dans notre traduction, quand nous traduisons, aussi étrange que ça puisse paraître. Tchekhov, Dostoïevski, c'est un peu autre chose. Tchekhov et aussi Bulgakov. On n'emploie pas un seul mot qui n'est pas attesté pour Tchekhov, dans un dictionnaire français de 1900. Il n'y en a pas un seul. Ce qui change, ce n'est pas le vocabulaire, c'est la syntaxe. Parce qu'il n'existe pas d'exemple de syntaxe comme Tchekhov dans la France à l'époque. Pour Bulgakov, c'est pareil. Il n'y a pas un mot qui n'est pas attesté dans un dictionnaire de 1930. Je pense réellement qu'il n'y en a pas. Et s'il y en a un, c'est une faute. Maintenant, chaque livre porte le poids, l'empreinte, la marque et la fierté de son époque. Parce que nous sommes tous des êtres de chair et de sang et de temps. La question, c'est de ne pas... Comment vous dire ? De ne pas considérer que ce qui est ancien est vieux et que ce qui est contemporain est jeune. Parce que ce qui est contemporain est passé le temps que je dise le mot contemporain. Voilà. Naturellement. Mais comment ? L'histoire d'un auteur étranger, qu'est-ce que c'est qu'un auteur étranger dans une langue X ? C'est pas telle ou telle traduction. C'est l'histoire de toutes ces traductions. C'est tout. Voilà. Et c'est pas tous les 15 ans, tous les 25 ans, tous les 30 ans. Non, c'est pas vrai. C'est n'importe quand. n'importe quand. Et puis, il y a des traductions, ça arrive, c'est rare, mais ça arrive, ou des traductions qui... où finalement on dit que bah, c'est pas lié au temps. C'est rarissime. Dans la littérature russe, il y en a comme ça quelques-unes. L'Odyssée de Joukovsky, l'Iliade de Gnedich. Voilà. Mais c'est rare, c'est rare. Bon, voilà, c'est comme ça.
Revenons au livre, enfin, à son apparition, je pense, dans Le Monde, on a dit que c'était le Faust soviétique. Je reviens toujours à...
Bah, de fait, une des présences mais
c'est toujours péjoratif quand on dit voilà, Genève chinoise ou Faust soviétique, c'est déjà
oui,
péjoratif
mais pas soviétique.
En soi.
Pas et soviétique. Alors, c'est pas le Faust soviétique. C'est un miroir de Goethe dans la littérature russe. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et absolument, c'est évident qu'un autre des lignes directrices du livre, c'est le Faust, ça va de soi.
Et donc, ma question, je voudrais votre opinion sur... mon opinion personnelle sur ce livre, c'est que c'est trop. Et les livres profonds ne peuvent pas être aussi populaires que ça. Docteur Faustus de Thomas Mann n'est pas aussi populaire parce que c'est un livre compliqué. Pourquoi Bulgakov, c'est un livre aussi simplement distribué à tous les niveaux intellectuels?
C'est la même chose pour Shakespeare. Vous savez, je dis toujours, les pièces de Shakespeare, personne ne peut les comprendre la première fois qu'on les voit ou qu'on les lit. Personne. Mais tout le monde en a pour son argent dès le début. Je veux dire, comment c'était écrit pour 2000, hein, écrit ou joué pour 2000 personnes du globe. Eh ben, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire le public de 2000 personnes? Je parle de Shakespeare, mais c'est la même chose pour Bulgakov. Tu as des gens, ils viennent là pour voir des histoires d'amour. Eh ben, tu as des histoires d'amour. T'as des gens qui aiment les trucs de KPDP. Et ben, ils ont des trucs de KPDP. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et t'as des gens qui aiment les débats philosophiques et tout et tout. Et ben, il y a tout ça dans Bulgakov. Chacun, il y a des gens qui aiment beaucoup les blagues et qui aiment rire et qui aiment la littérature satirique. Et il y a ça aussi. Il y a tout. Mais c'est pour ça que c'est un livre monde. C'est un livre monde. Et tout le monde peut entrer dedans d'une façon ou d'une autre. Et je pense que, aussi, par exemple, dans les scènes de Palestine, eh ben, c'est de la haute littérature théologique. Mais les gens entrent dedans comme dans une espèce de roman historique. C'est comme si c'était, je ne sais pas... Salambo. Voilà. Un Salambo, mais avec derrière une question que, qu'est-ce que c'est qu'un homme de bien? Et comment dire traduire Kharoshe Chirivek? Ça, c'est une question. Nous, on a proposé un homme de bien. Mais qu'est-ce que c'est le bien? Et voilà. Ça, voilà. Bref, c'est-à-dire, tout le monde peut trouver quelque chose. Et il se trouve que tout le monde trouve quelque chose dans un organisme qui englobe tous les goûts possibles et imaginables. Et je peux pas imaginer qu'il n'y a pas un cœur, au monde, un cœur de chacal ou de coyote tel qu'il ne soit pas touché par l'amour du maître et de Marguerite. Et c'est fondamental. Si on n'a pas les larmes aux yeux à la fin, il me semble qu'on a oublié d'évoluer de l'orang-outan. Mais je veux dire, voilà. Enfin, bon, comment dire, toute révérence gardée envers les orang-outans. Voilà. Non, c'est normal. C'est comme, il y a des livres monde. Des livres qui sont comme des livres qui sont pour toute la vie. Qu'on relit et qu'on retrouve tout le temps.
Grâce à votre femme.
On n'est pas mariés.
Vous avez plongé, votre, je ne sais pas comment, compagne,
mon ami,
votre ami, vous êtes plongé dans le monde de Satan,
oui.
Sans avoir peur, ou alors moins.
Moins.
La littérature russe est terriblement prophétique. En tout cas, quand on la lit, on retrouve parfois des réponses à des questions de la société aujourd'hui. Vous êtes tellement plongé dans ce livre. Est-ce que vous avez trouvé des réponses à ce monde d'aujourd'hui français ? Est-ce que vous avez encore découvert quelque chose ?
Écoutez, Dieu me garde des prophètes et des barbes. La littérature russe a un défaut majeur, je le dis, c'est la barbe. Les auteurs barbus, et j'ai traduit donc les œuvres complètes de Dostoïevski, mais pas les articles et pas les lettres. Les barbes, que ce soit Dostoïevski, que ce soit Tolstoï à sa façon, que ce soit après Solzhenitsyn, les barbes sont des barbes prophétiques. Qui vous apprennent ce que c'est que nous, ce que c'est que la Russie, ce que c'est que le monde et comment il faut vivre. Et c'est pas pour dire, mais j'aime beaucoup les mentons glabres ou les barbiches, qui vous expliquent pas comment il faut vivre, mais juste comment on vit. Et mais sans blague, hein. Tchekhov, il dit, mais c'est pour ça que Tchekhov détestait Dostoïevski. Il disait, mais au lieu de nous apprendre comment il faut vivre, regardez comment vous vivez, quoi. C'est tellement plus important. Et justement, ce qui est absent chez Dostoïevski, chez Bulgakov, c'est le désir d'être un prophète. Le désir de montrer aux gens comment il faut construire la société, la Russie, machin, nous, etc., etc., etc. Et c'est ça qui fait sa valeur. Le malheur de la culture russe, c'est cette suite de prophètes sur le nous russe, sur la russité, sur le machin, sur l'âme russe, sur le. Et je déteste. Plus je vieillis, plus je déteste ça. Chez Bulgakov, il n'y a rien de ça. Il n'y a aucune. Il n'y a pas d'idéologie. Il y a le monde. Vous comprenez ? Et la France, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est. Voilà. Ce qui était extra. Ce que moi, je n'arrivais pas à faire, justement. Là où Françoise a été remarquable, enfin, en particulier. Quand on traduit Tchekhov, moi, je donne le rythme, je donne l'intonation, mais le vocabulaire, il est de Françoise. Et la précision du vocabulaire de Bulgakov, qui, et c'est pas un détail, était aussi médecin comme Tchekhov, est telle qu'elle entre exactement dans le vif du sujet, dans la vie même, et qu'elle enlève toute idéologie. Et alors, bien sûr, toutes sortes de courants politiques, de machins, de trucs vont récupérer telle ou telle chose. D'accord, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est justement qu'un roman comme Le Maître et Marguerite est un roman pur de toute russité. Ce qui ne veut pas dire, ce qui ne veut pas dire pas russe. Au contraire, c'est une espèce, oui, de palimpseste, d'encyclopédie de la littérature russe. Et de la Russie. Voilà. Et tout le reste n'a pas d'importance, pour moi.
Peut-être dans le même sens, on dit que c'est un roman antichrétien, parce qu'il n'y a pas de Dieu, et que c'est pas exactement évangélique.
Je ne sais pas qui dit ça, mais j'ai entendu un certain nombre de popes.
Oui, c'est des ecclésiastiques qui disent...
Mais j'ai comme l'impression que très souvent... En Russie comme ailleurs, quand l'Église a le pouvoir, elle est très antichrétienne.
Oui.
Voilà.
Pour un lecteur français, pourquoi un lecteur français qui ne connaît pas spécialement la culture russe devrait lire ce livre monumental. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour vous voir ?
Pour moi, il existe au XXe siècle en Russie deux sommets absolus. J'ai évidemment tort de dire ça, hein, mais deux. Le premier, c'est le Maître et Marguerite. Le deuxième, c'est Vie et Destin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose, hein, on comprend bien. Mais de ce niveau-là, je connais rien. C'est le plus grand roman russe du siècle. Voilà. Je ne peux rien dire d'autre. Et je suis persuadé que toute personne qui lira ça sera emportée, d'une façon ou d'une autre. Voilà.
Maintenant que vous avez abouti ce travail, qu'allez-vous devenir, André Markovitch ?
Alors, je vais devenir ce que je deviens. C'est-à-dire que... D'abord, je vais continuer à traduire du théâtre, plus de la prose. Si je peux, un peu de poésie. Mais surtout, je vais continuer à m'engager dans le travail qu'on a fait, qu'on a lancé de cette édition Mesure, qui est un travail parallèle aux traductions. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, mais lié aussi à l'idée de maison. Mm-hmm. À partir d'un certain moment, Françoise et moi, on s'est dit que, arrivé à l'âge qu'on a, avec le travail qu'on a fait, on a une quantité de textes inédits ou perdus ou pas publiés, mais on a fait la liste, Françoise et moi, chacun arrivé à plus de 70. Et on s'est dit, bien sûr, on peut chercher des éditeurs, mais on va à l'un, on va donner un autre, on va donner autre chose, et machin, et truc. Et pourquoi ? Qu'est-ce que ça nous fera de publier une 40e livre chez tel éditeur ou une 43e chez tel autre ? Non. Tant qu'à faire, je vais consacrer mon temps à construire une maison d'édition où on choisira le papier, bien sûr les textes, l'illustration et le mode de diffusion. Mmh. C'est-à-dire qu'on sera absolument libre. Et puis il y a aussi autre chose, ce qui est fondamental aussi dans Mesure pour moi, c'est qu'en même temps je traduis pas que du russe, je traduis aussi par exemple un poète américain qui s'appelle Charles Reznikov. Et Reznikov, qui est un poète mais sublime, il a toute sa vie, il a publié lui-même, à compte d'auteur, enfin à son compte, à lui quoi vraiment, des livres numérotés et signés à 300, 400 exemplaires. Et on s'est dit qu'on va faire ça. Nos livres, c'est là par exemple, voilà, ils sont là. Mm-hmm. Je les montre à... Ça par exemple, c'est Ilias Danievitch, on en parlera. Et là pour le coup, c'est bilingue. Mais c'est 40 ans de travail, de traduction de ce poète inouï qui a vécu en Géorgie, qui a découvert Pirasmagne, qui est un des théoriciens du Zaoum et du futurisme, et puis qui s'est retrouvé en France, qui a travaillé avec Dada, qui a travaillé avec Coco Chanel, avec Picasso, avec Braque, et qui écrivait des sonnets. Et j'ai passé 40 ans à traduire ça, et j'ai réuni mon travail, voilà. Ou bien vous avez Harms, vous avez... qui connaît Leonid Andreev, les pièces de Leonid Andreev? Mais La vie de l'homme, sérieusement, c'est une pièce mais incroyable, qui a été montée la même année par Meyerhold et par Stanislavski en 1907, qui a bouleversé le monde du théâtre. Tout le théâtre, par exemple, c'est inimaginable, Brecht est inimaginable sans Leonid Andreev. Pourquoi ? Parce que Leonid Andreev était tout de suite traduit en allemand. Et des choses comme ça. Et ben voilà, on publie de la poésie, de la prose, du théâtre ensemble, avec des livres qui ne coûtent pas plus cher qu'autre chose, hein, c'est voilà. Et là, par exemple, à 500 exemplaires, numérotés, signés. Et il y a encore autre chose, et j'en profite, je suis à la librairie du Globe, je voudrais remercier les libraires. Parce que, généralement, un éditeur, il travaille comment? Il fait des dépôts. C'est-à-dire qu'il envoie un certain nombre d'exemplaires. Si les livres ne sont pas vendus, eh ben, le libraire les ramène, les renvoie. Or, nous ne travaillons pas comme ça. Nous travaillons en vente ferme. Nous travaillons en vente ferme, ça veut dire que le libraire s'engage à vendre le livre. Et il ne le renvoie pas. On ne peut pas les reprendre parce que chaque livre est numéroté. Et donc, ce n'est pas possible juste. Mais ça veut dire que, par exemple, vous, à la librairie du Globe, Pauline m'a dit ça, que vous avez, sur les 10 Harms que vous avez commandés au début, vous en avez vendu 9. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un rapport de co-création fondamental.
Donc le futur du livre, c'est son exclusivité. Le livre devient un objet presque...
Un objet, mais le... Moi, je crois au livre. Je crois à l'objet livre. Ça veut pas dire que je suis contre Internet ou... Idiot, évidemment. Mais je crois au livre. Je crois que toucher un livre, savoir juste éprouver ce que c'est que le contact avec le papier. Vous voyez, là, je sais pas... Un Munken pur Rauf. Ben, je ne peux même pas le dire, mais c'est le nom du papier. Eh bien, c'est très important. Je pense que quand Françoise fait les couvertures, elle a une idée de l'harmonie des choses. Et partager cette harmonie, eh ben, c'est une grande chose. Parce que c'est Françoise qui fait les couvertures. Bref, je suis... j'ai l'intention... Inch'Allah, si Dieu veut, et si les petits cochons ne me mangent pas, mais je suis peu comestible. De continuer. Et déjà d'abord de continuer à vendre les 5 livres qu'on va publier cette année. Pour l'instant, on en publie que 3. Donc, Harms, Leonid Andreev et Zdanievich Eliasd. En février, il y aura ma traduction du Casanova de Tsvetaev. Mm-hmm. Et en décembre, il y a un livre que Françoise a fait, qui n'est pas du russe, qui est sur les contes populaires, où en plus on a pu enregistrer, c'est-à-dire qu'elle a mis la preuve que quand même on est up to date. C'est qu'il y a un code barre dans le bouquin qui va apparaître. Tu mets ton portable sur le code barre et hop, t'entends la voix de Françoise qui dit les contes. Si c'est pas extraordinaire,
magnifique.
C'est voilà. Et donc voilà. Et c'est ça que je voudrais continuer à faire.
Bravo.
Et c'est voilà, c'est comme ça.
Bah on a un petit comité de.
Mais oui.
Si quelqu'un a des questions, maintenant c'est à vous de les poser. Comment ça? Bien sûr que si.
Mais après, c'est difficile comme ça quand on... Mais, enfin, voilà. Mais si vous ne connaissez pas Zdanievich et Andreev... Non, sérieusement... Hein,
Personne ne sort d'ici sans un livre.
Ah, bah, c'est clair. Bon, j'ai pas d'armes, mais vous comprenez, il y a un escalier. Étroit. Donc, non, c'est... Et puis, en plus, il y en a là-haut. Donc, vous en prenez un ici, ça n'empêche pas d'en prendre un là-haut... Non, mais vous comprenez, c'est en fait c'est ça qui est pour nous très important. On continue à travailler naturellement avec des éditeurs avec lesquels on travaille, avec lesquels on a une histoire longue. Et par exemple Inculte, donc qui est proche d'Actes Sud, mais chez Inculte on a publié Partage. Il y a l'année dernière il y avait l'Appartement. Inculte a publié à titre de roman. Inculte c'est essentiellement un éditeur de romans contemporains. Et à titre de romans contemporains, en 2015, ils ont publié Mes ombres de Chine, qui est 401 poèmes chinois du 9e siècle. Et voilà, c'est un culte. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Mais je n'ai pas parlé de ça. Qu'est-ce qui paraît le 6 octobre chez un culte, jour de l'anniversaire de ma maman? Ma traduction de Slovo o polku Igoreve.
Mon Dieu. Wow.
Mais oui, un tout petit livre, et je peux parler de ça deux secondes, parce que...
C'est une bibliothèque, c'est le projet russe de bibliothèque, c'est ça?
Non, pas du tout. C'est que, là encore, c'est un projet depuis l'enfance, mais je connais un des grands spécialistes de ça, Andrei Chernov, qui a passé sa vie à étudier ça, qui a un passionné de ça. Et j'ai travaillé avec lui, j'ai traduit sa traduction. J'ai traduit sa traduction, qui est magnifique. Et il m'a aidé à faire les notes. Et vous verrez ce petit livre, il y a trois auteurs. Parce que d'abord, il a démontré que le dit du prince Igor n'était pas anonyme. Il a démontré que c'était signé. Et que l'auteur était Khaduna.
Mon Dieu.
Ou Khaduna. Et que c'est écrit, hein. Khaduna a écrit comme... Bon. Et Akto Tako Khaduna, qui est Khaduna? Il a fait des recherches. Et il est arrivé à découvrir qui était Khaduna. C'est un prince de la lignée des Rurikovitch. Vladimir de Tchernigov, qui est mort en 1202. Et c'est tout ça... démontré d'une façon extraordinaire. Et donc, il y a trois auteurs, Khaduna, Chernov et Markovitch. Excusez du peu. Et pour un tout petit livre, le dit de l'os d'Igor, et ça va, c'est une petite collection, et qui, en même temps, les trois autres livres sont des essais ou des nouvelles contemporaines. Et l'idée pour moi fondamentale, c'est que le premier poème russe, donc écrit, on le sait, entre 1185, puisque ça se passe en 1185, et 1187, et on sait que c'est pas plus tard, parce qu'on parle d'un personnage, d'un des princes russes, comme de quelqu'un de vivant, et dont on sait qu'il est mort en 1187, donc on sait que ça ne pouvait pas être écrit plus tôt, que ce poème-là, est un poème contemporain. Voilà. Et ça, pour moi, c'est très important. Mandelstam a dit « Нет никогда ничей я не был современник. » Non, je ne suis... Non, je n'ai jamais été le contemporain de personne.
Et moi, j'ai une petite anecdote pour ça, parce que la librairie du Globe, qui cherche les moyens pour gagner un peu d'argent et tout, on a fait avec un parfumeur français, Nicolas de Barry, qui est un ex-diplomate, qui restitue des parfums d'après les textes. C'est pas qu'il a trouvé le parfum de Prince Igor, mais il a trouvé le vrai parfum de cuivre de Russie. Et on a fait avec lui le parfum qui s'appelle Prince Igor.
Donc, voilà. Il faudrait qu'on regarde
pour le 6 octobre.
Il faudrait qu'on regarde nos emplois du temps, absolument, pour qu'on revienne.
Est-ce que les Russes boivent mais des parfums?
Oui.
Ah
mais...
bon, on va boire.
Non, mais ce qui serait formidable, quand, enfin, Inch'Allah, et si Dieu veut, quand les frontières se rouvriront, et que si Andrei Chernov pouvait venir, et que, parce que c'est un fou furieux, mais c'est quelqu'un de génial. C'est quelqu'un d'extraordinaire.
Il a aussi, par exemple,
c'est une des personnes qui ont démontré que le Don paisible n'avait pas du tout été écrit par Cholokhov, mais par Kriukov et tout ça. Et enfin, c'est des histoires tout à fait différentes. Bon, bref, ça serait de faire une rencontre avec lui, ça serait formidable.
Bien sûr.
Voilà. Et donc, le 6 octobre paraît ce petit livre.
Et donc, ça serait en combien d'exemplaires?
Là, c'est chez un culte. C'est un culte.
Ah, c'est un autre, c'est pas votre.
Non, c'est un culte qui paraît.
Moi, je pensais que c'était...
Non, c'est un tout petit. Hein, et comme un idiot, je... Mais c'est... J'ai... Où est ma tête?
Mais non.
Mais voilà, c'est... voilà, et donc... parce que j'ai reçu un exemplaire...
Mais bon,
vous l'aurez,
c'est bientôt,
évidemment.
Bien sûr.
Évidemment.
Bien sûr. Toujours pas de questions.
Eh ben.
Mon Dieu, quelle classe.
Mais c'est parce qu'on a beaucoup trop parlé, nous, Et quand on parle trop, les gens après se taisent et ils disent oui.
Bah, dans ce cas-là, on va signer.
Mais on va signer les livres. Et puis, il y a, je crois, du thé, tout ça, machin.
Voilà, bien sûr.
Et il y a la Vatrouchka qui est la marque de la librairie du Globe.
Oui, parce que les filles qui travaillent ici me disent, Natalia, André veut absolument la Vatrouchka.
Oui.
Alors, je ne vous dis pas comment on l'a trouvée.
Mais non, parce que là, tout est difficile.
J'ai travaillé toute la nuit à faire le... C'est faux.
mais c'est important de partager, comment dire... ce fruit-là, les nourritures terrestres et pas que terrestres. Et pour moi,
c'est assez diabolique cette histoire de votre papa, parce que vous soyez aujourd'hui ici, c'est enfin il y a de quoi avoir peur, en effet.
Ça s'est passé comme ça. Et...
Moi, je suis très, enfin, je ne sais pas comment vous dire, je suis très touchée.
Merci.
Je n'ose pas dire davantage, c'est quelque chose qui fait la chair de...
Mais moi, j'ai cette chance immense d'avoir des... Je peux dire ça à l'âge de 60 ans. D'avoir eu des parents qui m'ont toujours soutenu. Des parents pour lesquels j'ai toujours éprouvé un immense respect. Ce qui est une chance inouïe. Et ma maman a quand même, non seulement elle a gardé la langue, puisqu'elle m'a toujours, toujours, toujours parlé russe, ici. Elle est ici depuis 1975. On ne s'est jamais dit un mot en français. C'est juste impossible qu'on se parle français. Et même quand Françoise est là ou quand qui que ce soit est là, on se parle quand même russe. Et finalement, les gens comprennent ou bien je traduis. Et elle a relu toute la traduction de Bulgakov deux fois. La première, en disant que c'était pas ça. Et la deuxième, en corrigeant, en disant que ça allait.
Pas plus.
Так неплохо, она сказала.
Vous avez peur de maman?
Ah, si ma maman dit que c'est pas bien, c'est que c'est pas bien. Absolument. Absolument.
Papa aussi russe. Votre papa aussi
non,
russe.
Non, non, non. Non, non,
français.
Ouais, ouais. Juif français comme tout le monde. Voilà. Juif polonais comme tout le monde. Et donc, voilà. Non, non, mon père parlait pas. Enfin, il parlait russe. Mais il parlait un russe, c'est-à-dire très intéressant. Mais ça, c'est autre chose. Et il parlait un russe agrammatical.
C'est-à-dire ?
Eh bien, jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas arrivé à faire une déclinaison correcte. Et ce n'était pas grave parce qu'on le comprenait. Il n'avait pas besoin de faire l'effort de faire la déclinaison. Mais parce qu'une fois, c'est une histoire, je peux finir sur ça.
Bien sûr.
Une fois, il a essayé, mais quand même avant, enfin, quand j'étais tout petit, il allait au travail et il voulait dire à ma maman que... Elle devait lui téléphoner. Et il lui a dit, «Я жду твоего позвонка». Parce que le verbe, c'est «позвонить», une fois, «звонить», «позвонить», «téléphoner». Or, «позвонок», c'est une vertèbre. Et quand ma maman s'est écroulée de rire, et qu'ils ont compris que ça devenait mythique, ce «позвонок», il a compris qu'il lui manquait, comment dire, un mécanisme. Et que, à partir de là, il a dit « «Я жду тебя звонить» » ou je ne sais pas quoi, et ce n'est pas grave, c'est absolument un barbarisme, tout était un barbarisme, mais l'idée était claire. Et voilà, c'est comme ça qu'il a continué à parler russe. Mais c'est le Maître et Marguerite, c'est le seul roman qu'il a lu en russe. Lu et relu. Ouais. Voilà.
Bon.
Merci beaucoup à vous. Merci.
Merci à vous.
Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.